Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique au micro, Idrissa Seydoulia, bonjour. En Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre et ex-chef rebelle Guillaume Soro a été condamné hier à Abidjan à la prison à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État, un jugement politique selon lui. Michel Joseph fera le point. En Mauritanie, les avocats de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz dénoncent de leur côté un acharnement politique contre leur client placé mardi soir sous mandat de dépôt dans l'enquête pour corruption dans laquelle il est inculpé depuis mars. Au Sénégal voisin, majorité et opposition ont mesuré leur force à distancier à Dakar en mobilisant des milliers de partisans autour d'un anniversaire, prétexte à défendre le président Macky Sall ou à lui interdire un éventuel troisième mandat, ont constaté les journalistes de l'AFP. Elles se sont disputées l'héritage de la contestation du 23 juin 2011, fatale à un troisième mandat du président de l'époque, Maître Abdoulaye Wade. Au Mali, un abbé et un groupe de catholiques maliens, enlevés par des hommes armés lundi dans le centre du pays, ont été libérés hier. Notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko, nous donnera les détails. Au Niger, selon des sources sécuritaires et militaires hier, deux civils ont été tués mardi lors d'une attaque dans la région de Tillabéri, tandis que l'armée repoussait le même jour une attaque du groupe djihadiste Boko Haram, tuant trois assaillants à Bosso, dans le sud-est. Au Mozambique, des affrontements entre djihadistes et forces gouvernementales ont éclaté ce mercredi dans le district septentrional de Palma, près d'une usine à gaz valant plusieurs millions de dollars. Pour leur part, les dirigeants de la communauté de développement d'Afrique australe, réunis à Maputo, se sont entendus sur l'envoi prochain de troupes au Mozambique pour lutter justement contre ces groupes djihadistes qui sèment la terreur dans le nord-est du pays depuis plus de 3 ans. En Éthiopie, une frappe aérienne a touché mardi un marché très fréquenté au Tigré, faisant des dizaines de blessés et un nombre indéterminé de morts. L'ONU a appelé à une enquête rapide et indépendante, soutenue par Washington, qui a condamné fermement la frappe aérienne et appelé à un cessez-le-feu immédiat au Tigré, où le conflit dure depuis 7 mois. En se fondant sur des informations crédibles, le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, a exigé un accès médical immédiat et sans entrave aux victimes, qualifiant d'odieux et inacceptable tout obstacle par les forces de sécurité. La Libye a fait état mercredi de progrès en vue d'un départ des forces étrangères de son territoire avec des discussions russo-turques en vue sur un retrait initial de plusieurs centaines d'hommes de part et d'autre. C'était après la conférence d'hier à Berlin sur ce pays. Le FLN, au pouvoir en Algérie, a remporté les élections législatives anticipées du 12 juin, marquées par une abstention record, selon les résultats officiels proclamés mercredi soir par le Conseil constitutionnel. C'est une surprise, le FNL étant considéré comme discrédité, à bout de souffle en raison de sa compromission avec l'ex-président Abdelaziz Bouteflika et son clan. Il existe un lien probable entre les vaccins contre le COVID-19 de Pfizer et de Moderna et de rares cas d'inflammation au niveau du cœur chez des adolescents et de jeunes adultes, ont estimé des experts américains, mais les bénéfices de ces remèdes surpassent toujours largement les risques encourus. Le président américain Joe Biden a présenté ce mercredi de nouvelles mesures pour tenter de limiter la circulation des armes à feu sur fond d'augmentation de la criminalité à travers les États-Unis, sujet dont se sont emparés ses adversaires républicains. John McAfee, le créateur américain du célèbre logiciel antivirus portant son nom, s'est suicidé mercredi dans une prison en Espagne, où un tribunal venait d'ordonner son extradition aux États-Unis. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC, en votre compagnie. Idrissa Seydoulia, restez à l'écoute.
suite de nos informations, 48 heures après leur enlèvement, les cinq personnes de l'Église catholique enlevées dans la région de Mopti, au Mali, ont été libérées par leurs ravisseurs. Des détails avec notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko.
Les cinq otages de l'équipe de l'abbé de Ségué viennent d'être libérés par les bandits armés. Ils sont tous sains et saufs. Ils ont été libérés au bord du goudron et ils ont déjà contacté leurs familles respectives. Les dispositions sont prises pour les récupérer au bord du goudron. Le véhicule a été emporté par les bandits. C'est par ce message d'un proche de la famille que nous avons appris hier à 18h la libération de la délégation du curé de Ségué. Un ouf de soulagement pour la communauté chrétienne et plus particulièrement du diocèse de Mopti qui avait fait un communiqué demandant au gouverneur de la région de tout mettre en œuvre pour rechercher l'abbé Léon Dugnon et les quatre autres catholiques enlevés en même temps que lui. Il faut rappeler que la délégation a été enlevée entre Wou et Bandiangara le 21 juin dernier alors qu'elle se rendait à Saint pour prendre part aux obsèques du curé Oscar Terra. Mohamed Danyoko, VOA, Bamako.
En Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre et ex-chef rebelle Guillaume Soro a été condamné en son absence hier à Abidjan à la prison à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État. Le point avec Michel Joseph.
Également ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, 49 ans, était accusé avec 19 co-prévenus d'avoir fomenté une insurrection pour renverser le régime d'Alassane Ouattara, son ex-allié. Sur les 20 personnes accusées, 16 étaient présentes au procès. Les autres, dont Guillaume Soro, vivant en exil à l'étranger, ont été jugés par contumace. Le juge Charles Bigny a d'ailleurs prononcé un mandat d'arrêt à leur encontre. Souleymane Kamagaté, alias Soul to Soul, ex-chef du protocole de Soro, Afoussi Bamba, son avocate, et ancienne ministre Touré Moussa, son ancien chef de la communication, sont condamnés à 20 ans de prison. Deux des frères de Soro Guillaume et son ancien bras droit Alain Lobognon ont été condamnés à 17 mois de prison. La Cour a ordonné la confiscation de leurs biens et la dissolution de leurs mouvements, Génération et Peuple Solidaire. La Cour a aussi ordonné aux condamnés de payer solidairement 1 milliard de francs CFA à l'État ivoirien. Je rejette ces verdicts iniques dictés par des considérations d'ordre politique, a réagi Guillaume Soro dans un communiqué. Chef de la rébellion, M. Soro a aidé militairement Alassane Ouattara à accéder au pouvoir. En 2011, il a été son premier chef du gouvernement. Il est devenu en 2012 président de l'Assemblée nationale, deuxième personnage de l'État ivoirien. Puis, la rupture définitive est intervenue en 2019.
Au Burkina Faso, deux soldats ont été tués en recherchant des policiers disparus suite à une attaque lundi dans le centre nord du pays. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Ces militaires tombés sur un engin explosif faisaient partie des équipes de recherche de policiers disparus, a déclaré hier Ousseni Tamboura, porte-parole du gouvernement, après un conseil des ministres consacré à la situation sécuritaire. 11 policiers ont été tués lundi dans une embuscade sur l'axe Barsalgo-Foubé, dans le centre nord. 4 policiers étaient portés disparus. Ousseni Tamboura a annoncé que lundi également, une autre attaque a touché des volontaires pour la défense de la patrie, dont l'un a été tué dans la région du Nord. Selon lui, une dizaine de volontaires sont toujours portés disparus. Créés en décembre 2019, les VDP sont des supplétifs civils qui interviennent aux côtés des forces armées. M. Tamboura a aussi affirmé qu'une composante du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans est responsable de l'attaque de Solan dans le Nord-Est. Perpétrée dans la nuit du 4 au 5 juin, elle a fait au moins 132 morts selon le gouvernement, 160 selon des sources locales.
L'émissaire de l'ONU en Centrafrique, Mankeur Ndiaye, dénonce vivement le comportement des forces nationales centrafricaines et de leurs alliés russes, responsables présumés de multiples violations des droits humains. Selon le diplomate, ces actions entravent gravement les opérations des casques bleus. Abdourahmane Dia fait le point.
Mankar Ndiaye critique ce qui est, selon lui, une nouvelle tendance. Il a évoqué hier devant le Conseil de sécurité de l'ONU des violations des droits de l'homme et manquements au droit international humanitaire imputables aux forces armées centrafricaines, forces bilatérales et autres personnels de sécurité. Le déploiement des forces bilatérales ne gagnera en utilité et en légitimité qu'à condition de contribuer à la protection des civils, de relever le professionnalisme et l'efficience des forces de défense et de sécurité et de mettre fin à la violence, a précisé Mankar Ndiaye, alors que Bangui a promis de mettre un terme aux entraves subies par la MINUSCA.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
Le président togolais Fornia Singbe a inauguré à Blita, au nord de Lomé, une centrale photovoltaïque de 50 mégawatts, la plus grande d'Afrique de l'Ouest. Cette centrale va desservir plus de 158 000 ménages togolais. Construite par Amea Togo Solar, cette centrale solaire érigée sur une superficie de 92 hectares se compose de 127 340 panneaux solaires pour une puissance installée de 50 MW et une production d'environ 90 255 MW d'énergie par an. La fondation du footballeur ivoirien Didier Drogba va soutenir la formation d'un million de jeunes Africains de milieux défavorisés en vue de réduire la fracture numérique. Elle a signé un partenariat avec 01 Talent pour créer une centaine de zones d'intelligence collective sur 10 ans, indique un communiqué signé par Monsieur Drogba. La première zone 01 qui sera inaugurée à Praia au Cap-Vert en septembre accueillera 300 jeunes de 26 pays africains. La directrice générale du FMI a appelé à la coopération internationale pour soutenir l'Afrique où la pandémie de Covid-19 affecte durement l'économie. À l'occasion de la réunion annuelle de la Banque africaine de développement, Kristalina Georgieva a rappelé que le fonds table sur une croissance mondiale de 6%, mais de seulement 3,2% en Afrique.
Merci Nathalie. Et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Pas d'alcool, pas d'embrassade, pas d'acclamation, pas d'autographe. Les organisateurs des Jeux Olympiques de Tokyo ont dévoilé hier de nouvelles règles très strictes pour les spectateurs des JO. Les responsables olympiques ont décidé lundi d'autoriser un maximum de 10 000 spectateurs locaux par site. Toute personne enregistrant une température corporelle supérieure à 37,5 degrés lors de deux contrôles distincts se verra refuser l'entrée, ainsi que toute personne toussant ou ne portant pas de masque et sans remboursement possible si l'entrée est refusée. Une fois à l'intérieur, les spectateurs pourront applaudir, certes, mais n'auront pas le droit d'acclamer les sportifs ou d'entrer en contact direct avec d'autres spectateurs. Ils seront invités à rentrer chez eux après les compétitions. Il sera également interdit de demander des autographes aux athlètes, d'exprimer son soutien verbal ou d'agiter une serviette. Les Jeux sont prévus du 28 juillet au 8 août prochain. Des nouvelles de l'Euro, la France a terminé première du groupe F après son nul 2-2 à Budapest contre le Portugal, également qualifié. Cristiano Ronaldo a marqué deux fois sur pénalty et Karim Benzema a lui aussi réussi un doublé côté français. Avec un total de 109 buts en sélection, Ronaldo a égalé le record du monde établi par l'Iranien Ali Daei. Au tournant des années 2000, le Portugal termine troisième du groupe F et affrontera en huitième de finale la Belgique dimanche à Séville. La France, elle, sera opposée à la Suisse lundi en huitième de finale à Bucarest. Toujours dans ce groupe F, l'Allemagne s'est qualifiée à Munich pour les huitièmes en faisant match nul 2-2 face à une très coriace équipe de Hongrie. L'Allemagne, deuxième du groupe F, affrontera l'Angleterre mardi à Wembley. Dans le groupe E, la Suède a battu dans le temps additionnel la Pologne 3-2 à Saint-Pétersbourg pour terminer en tête de cette poule. Toujours dans ce même groupe E, accroché par la Suède 0-0 et la Pologne 1-1, l'Espagne a enfin remporté un match en étriant la Slovaquie 5-0 et a validé son ticket pour les huitièmes de finale où elle affrontera la Croatie lundi à Copenhague. Ici, en NBA, les Detroit Pistons auront le premier choix de la draft 2021, le marché annuel au cours duquel les franchises NBA choisissent leurs futurs joueurs parmi les jeunes talents.
Selon le tirage au sort effectué mardi, seules les équipes non qualifiées pour les playoffs de la NBA cette saison pouvaient participer à ce tirage au sort, dans lequel les Houston Rockets et les Orlando Magic ont les meilleures probabilités de décrocher le gros lot. Les Rockets seront finalement les deuxièmes à pouvoir choisir un des joueurs, tandis que Cleveland aura le troisième choix. C'est la première fois depuis 1970 que Détroit obtient le premier choix de la draft qui aura lieu le 29 juillet.
Merci Yacouba. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en votre compagnie, Idrissa Sedulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La Cour de justice de la CEDEAO ordonne au gouvernement du Nigeria de s'abstenir d'imposer des sanctions à tout média ou de harceler, intimider, arrêter et poursuivre les utilisateurs de Twitter dans le pays. Une organisation de défense des droits humains et plusieurs leaders d'opinion du pays ont récemment porté plainte devant la Cour de la CEDEAO pour contester la suspension de Twitter au Nigeria. Cette première décision de la Cour régionale, en attendant les audiences sur l'affaire, est une première victoire des défenseurs de la liberté d'expression sur le pouvoir en place. Reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
La décision rendue mardi par la Cour de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest indique que le gouvernement ne peut imposer ni des sanctions, ni harceler, intimider, arrêter ou poursuivre les utilisateurs de Twitter. Le ministre nigérien de la Justice avait menacé de poursuivre ceux qui vont tenter de violer l'interdiction de Twitter sur le territoire nigérien par le gouvernement fédéral sans donner plus de détails sur ces poursuites et qui seraient visées. La réaction de l'activiste nigériane Fethi Wadichi.
Cela montre que la Cour reste principalement le dernier espoir des gens ordinaires. Seule une justice est mieux placée pour prendre une telle décision. J'espère que le gouvernement fédéral va respecter cette décision pour la simple raison que c'est la Cour de la CEDEAO et elle a bien une juridiction pour statuer sur des cas pareils.
L'organisation non gouvernementale CERAP a déposé une plainte contre la suspension de Twitter et la criminalisation de ses utilisateurs. Une audience est prévue le 6 juillet prochain sur l'affaire. L'organisation bénéficie du soutien de la majorité des Nigérians et d'autres organisations de la société civile comme CODE. Son fondateur, Hamza Laval, partage l'idée de CERAP qui pense que la suspension de Twitter par le gouvernement fédéral est illégale.
Je suis satisfait de la décision de CERAP de traduire le gouvernement fédéral devant la justice. La Cour reste le seul espoir des Nigérians pour revenir sur cette interdiction illégale de Twitter. Je suis vraiment content que CERAP et d'autres organisations de la société civile se sont joints aux Nigérians pour aller contester la décision à la Cour.
Depuis la suspension du géant des médias sociaux par les autorités fédérales au début du mois, les débats autour de la question dominent toujours l'actualité. Mardi, le ministre de l'Information et de la Culture était devant les parlementaires pour défendre la décision du gouvernement provoquant la colère de certains députés.
La réaction des autorités était due au fait que Twitter a supprimé un tweet du président nigérian comme ils avaient supprimé un tweet de Donald Trump des États-Unis.
Nous devons prendre en considération les conséquences économiques pour des millions de jeunes Nigérians qui survivent à l'aide de la plateforme en pratiquant beaucoup d'autres choses.
Le Nigeria a interdit Twitter pour avoir supprimé un tweet du président qui menaçait de punir un groupe séparatiste qui l'accuse d'avoir attaqué des biens publics. Le gouvernement vient de constituer une commission qui doit entrer en négociation avec Twitter pour résoudre la crise. Gilbert Tamba Abuja, VOA Afrique.
Au Cameroun, plusieurs centaines de femmes se sont réunies à l'occasion de la Journée internationale des veuves pour protester contre les pratiques traditionnelles que les femmes sont censées subir lorsqu'elles perdent leur mari. Elles incluent ces pratiques dormir avec le cadavre de leur mari et boire l'eau utilisée pour laver le corps. C'est un reportage de Moki Edwin Kizeka. Le récit est de Rosine Mounezero.
« Un groupe de 7 jeunes chante à Vogmbi, un quartier Yaoundé. Ils disent que de nombreux rites de veuvage pratiqués au Cameroun infligent des souffrances aux femmes. Ces jeunes de Noun dans l'Ouest ont été rejoints par plusieurs centaines de veuves, de chefs traditionnels et du clergé pour observer la journée internationale des veuves. La ministre camerounaise de la femme et de la famille, Marie-Thérèse Abena Ondoa, affirme que des pratiques traditionnelles néfastes qui violent les droits des veuves sont toujours pratiquées à Noun. Djoukou Yebom, 58 ans, est originaire de Noun et regrette d'avoir tenté de forcer la femme de son jeune frère décédé à l'épouser.
Quand l'homme est décédé, certaines demandent encore à réépouser la veuve. Parce qu'on trouve qu'en la réépousant, que ça doit permettre à maintenir les biens de l'homme, soit comme un administrateur des biens de l'homme, qui doit permettre à sauvegarder les biens de l'homme et continuer à éduquer les enfants avec la mère des enfants, en attendant que la maturité des enfants puisse arriver pour qu'ils puissent entrer en possession du bien que leur papa leur a laissé.
Le Cameroun affirme que d'autres pratiques néfastes consistent à forcer les femmes à dormir avec les cadavres de leurs défunts maris et à boire de l'eau utilisée pour laver leurs défunts maris, comme signe qu'elles n'ont pas tué leur conjoint. Ami Banda est présidente de Target Peace, une ONG qui protège les droits des veuves.
Une veuve plus âgée qui avait partagé avec nous son expérience très douloureuse avait infligé la même douleur à la femme de son fils décédé. Nous étions désolés pour elle. Vous ne vous sentez pas mieux lorsque vous infligez de la douleur à une autre personne parce que vous en avez souffert. Cela ne vous fait pas sentir beaucoup mieux.
Francis Kamoto est chargé de la promotion et de la protection de la famille au ministère de l'autonomisation des femmes. Elle dit que les rites de veuvage néfastes persistent encore au Cameroun en raison de l'analphabétisme et de la dominance des hommes.
Ces pratiques répugnantes sont attachées à la sorcellerie. Les gens ont donc peur de s'en séparer, de perdre leurs enfants. Et c'est pourquoi l'action doit continuer. La première chose en cas de détresse est l'assistance psychosociale. Il faut lui parler afin qu'elle puisse retrouver ses forces pour affronter la vie. Et puis, l'une des choses les plus importantes que fait le ministère est de donner aux veuves des moyens financiers, car la plupart d'entre elles sont pauvres.
Les Nations Unies déclareront le 23 juin comme la Journée internationale des veuves pour attirer l'attention sur les expériences douloureuses des veuves, car la perte d'un partenaire est déjà dévastatrice, surtout lorsqu'elle vient s'ajouter à une longue lutte pour la survie, pour la satisfaction des besoins de base et pour la dignité.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le retrait des troupes américaines d'Afghanistan est plus qu'à mi-chemin. Le pays est en proie à la violence et les talibans étendent leur portée. Le président afghan est reçu demain vendredi par le président Joe Biden à la Maison-Blanche. Précision de la correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, Caroline Pressouti. Récit de Yacouba Ouedraogo.
Des coups de feu se font entendre lorsque les talibans prennent le contrôle de la ville afghane de Kunduz, au nord, près de la frontière du Tadjikistan. Abdul Rahim habite à Zakaïl.
La situation à Kunduz est très mauvaise. Elle n'est pas sûre. Il y a tellement de blessés à l'hôpital.
Les talibans avancent alors que les troupes américaines se retirent, avec une date limite ferme le 11 septembre pour un retrait total. Depuis, les insurgés ont envahi 60 districts. C'était le sujet du débat de mardi au Conseil de sécurité des Nations Unies. Deborah Lyons, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU.
La plupart des districts qui ont été pris entourent les capitales provinciales, ce qui veut dire que les talibans se positionnent pour essayer de prendre ces capitales une fois que les forces étrangères se seront totalement retirées.
Dans cette interview exclusive accordée à la VOA, le premier vice-président afghan, Amrullah Saleh, a déclaré que les talibans ont repris confiance en l'absence des forces américaines.
Ils ont cette fausse conviction qu'ils ont vaincu les étrangers et il s'agit maintenant de vaincre les forces afghanes.
Ainsi, le défi pour les États-Unis est d'amener les talibans à la table des négociations pour la paix. Ce sera à l'ordre du jour lorsque le président Joe Biden va recevoir vendredi le président afghan Ashraf Ghani et le président du Haut Conseil pour la Réconciliation Nationale, Abdullah Abdullah. L'ancien ambassadeur des États-Unis en Afghanistan, Roland Norman, a déclaré que la réunion de vendredi n'est pas seulement symbolique.
L'invitation est un symbole de la détermination américaine à rester impliquée, engagée avec l'Afghanistan et à continuer d'aider l'Afghanistan, même si les troupes partent. En outre, il est important que le docteur Abdullah et le président Ghani se réunissent. Je pense que c'est un signe d'unité très important et visible qui est très nécessaire à Kaboul.
Les États-Unis fournissent plus de 266 millions de dollars en aide humanitaire à l'Afghanistan alors qu'ils sortent de leur plus longue guerre. Selon l'ONU, 18 millions d'Afghans sont dans le besoin et près de 5 millions sont déplacés à l'intérieur du pays.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, les habitants de la ville de New York ont voté mardi lors d'une primaire démocrate qui sélectionnera le candidat presque certain d'accéder à la mairie de la plus grande métropole américaine. Sur la particularité de la ville de New York et les enjeux autour de cette élection, Mohamed Humfa a joint le professeur Mohamed Mouch, professeur d'histoire à Manhattanville College de New York, son analyse.
D'abord, la population de New York, lorsqu'on y ajoute la région new-yorkaise, Connecticut, Westchester, etc., etc., on est dans les 20 à 30 millions de personnes qui sont impactées par le maire de New York. Donc, c'est la personne pour laquelle le plus grand nombre d'électeurs votent après le président. C'est une ville très diverse. C'est la ville qui, avec Londres, compétit pour le plus grand nombre de nationalités, de langues, d'origine, d'ethnie, de religion, etc. Donc, ce qui fait que c'est une région très mélangée, très diverse et très dynamique aussi. La population est jeune et tend à augmenter. C'est ce qui fait la particularité du poste du maire de New York.
Alors, on s'achemine vers une victoire de notre démocrate. Qui contrôlera cette mairie. Pourquoi est-ce que New York est un bastion démocrate et malgré tout, est-ce qu'il y a des divergences idéologiques entre les candidats, les principaux candidats démocrates?
Je commencerai par la dernière question. Il y a certainement ce qu'on peut appeler des démocrates de gauche, des démocrates centristes et des démocrates de droite. Et d'une certaine façon, il y a bien entendu beaucoup de divisions de ce niveau-là. Par exemple, le rôle de l'État et de la ville de New York. La ville de New York doit-elle, par exemple, subventionner les logements? Ou bien doit-elle subventionner les propriétaires d'immeubles pour qu'ils construisent des immeubles qui soient accessibles aux New-Yorkais? Donc ce sont des détails comme ça qui font que même si tout le monde est d'accord que par exemple il faut subventionner l'habitation pour les plus pauvres, la manière d'y arriver fait intervenir des clivages idéologiques. Mais les démocrates s'accordent sur une chose, le rôle de l'État. Pour subventionner, pour aider, pour les plus pauvres. Donc il y a un consensus de ce côté-là. Il y a aussi une quête d'égalité. Ce n'est pas l'image des fondateurs blancs et masculins, disons, des États-Unis qui prévaut ici. C'est plutôt la diversité, le melting pot, comme on l'appelait dans le temps, qui prévaut. Et donc les démocrates se prévalent un peu de cette vision du monde.
L'élection a eu lieu mardi, mais on ne devrait pas connaître le vainqueur avant plusieurs semaines. Qu'est-ce qui fait la complexité de cette élection?
C'est bien entendu le choix par ordre de préférence. Au premier tour, on élimine ceux qui ont le moins de voix. Ensuite, au deuxième comptage, en fait, on élimine ceux qui ont le moins de voix jusqu'à ce qu'on arrive à celui qui, finalement, a le plus de voix entre les deux qui reste, donc, lorsqu'on a défalqué tous les autres qui ne sont pas parvenus à rester dans la course. Et donc, il faudra compter quelque chose comme 3 ou 4 comptages des voix. Ce qui fait qu'effectivement, ça va prendre du temps. Et en plus, il y a maintenant les votes par correspondance qui sont dépouillés, donc, et qui quelquefois même sont toujours dans la poste, car il faut quelque chose comme une dizaine de jours pour que tous ces votes arrivent là où ils doivent arriver.
Le professeur Mohamed Mouch, professeur d'histoire au Manhattanville College de New York. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.